France Musique. Musicopolis. Morwedd Owen, compositrice galloise. La postérité a bien des manières de se souvenir ou d'oublier celles et ceux qui ont fait l'histoire de la musique. Parfois, une seule mélodie subsiste sans qu'on se souvienne de son auteur. Parfois, c'est le contraire. On se souvient seulement de sa biographie et pas de son œuvre. C'est ce qui s'est passé pour Morwedd Owen, compositrice galloise. Son nom et l'histoire de sa vie sont restés dans la mémoire collective parce qu'elle est morte très jeune, alors que sa musique a complètement disparu, hormis une ou deux mélodies. Une petite précision phonétique sur notre compositrice du jour. Le gallois sonne en français très différemment de ce qu'on voit écrit. Je ne vous garantis pas ma prononciation à 100%, mais alors que son nom s'écrit Morfydd, Y2D, F-Y2D, on prononcerait quelque chose comme Morwedd. La mémoire de Morwedd Owen, donc, est restée. Des recherches biographiques ont été faites sur elle. On commence à savoir beaucoup de choses sur sa vie, sa correspondance, ses relations, mais il aura fallu attendre 2018, le centenaire de sa mort, pour qu'un disque complet lui soit consacré et qu'une œuvre d'elle soit jouée par l'orchestre de la BBC du Pays de Galles au Proms de Londres. Si la mémoire de Morwedd Owen a été conservée, ce n'est pas seulement en raison de sa mort tragique à 26 ans. C'est surtout parce qu'elle est la première compositrice galloise à s'être distinguée, à avoir obtenu des distinctions en dehors de son pays et à avoir représenté dignement les Gallois une fois arrivée à Londres. Elle est restée pour ses concitoyens une icône, toujours présente dans les grands rassemblements annuels du Pays de Galles. D'après les commentateurs, cette mélodie est tellement chargée en émotions qu'elle peut remuer intensément un public gallois. C'est l'une des seules mélodies de Morwedd Owen qui s'est maintenue au répertoire au fil des années depuis sa mort, et cela pour la raison qu'elle appartient au répertoire des Eisteddfodau. Vous remarquerez que je fais beaucoup d'efforts pour essayer de respecter la prononciation du gallois, pourtant totalement contre-intuitive pour nous autres francophones. Donc c'est Eisteddfodau. sont des festivals qui ont lieu tous les étés, de littérature, musique et théâtre, au cours desquels ont lieu des concours avec remise de prix dans les disciplines qui concernent la langue galloise. Ces rassemblements qui datent du Moyen-Âge ont connu un regain de popularité depuis le XVIIIe siècle. Ils sont toujours aujourd'hui des occasions plébiscitées par les Gallois. Les chœurs d'hommes sont une des spécialités musicales du Pays de Galles. Ils sont nombreux, notamment dans les grands rassemblements d'été. Morfydd Owen a été très investie dans ces festivals annuels qui soudent la communauté galloise. Très tôt, elle y a été invitée pour chanter et pour jouer du piano. Et à 21 ans, elle était acceptée comme barde au sein de la société Gorses of the Bards, une assemblée qui se réunit pour célébrer tous les poètes, écrivains, musiciens et autres qui contribuent en quelque manière à la vie de la langue galloise. Mais avant de poursuivre, un mot peut-être de sa formation. Morfydd Owen est né en 1891 dans une petite ville du Pays de Galles, à une vingtaine de kilomètres de Cardiff, la capitale. Ses parents, qui ont un magasin de tissus, ont pour valeur l'éducation, la foi presbytérienne et la musique. Ils sont tous les deux musiciens amateurs, ce qui donne l'occasion à la petite fille de montrer très tôt ses dons sur le piano familial. Elle se produit toute jeune en public, elle accompagne aussi le chœur que dirige son père à la chapelle voisine. Elle gagne un prix dans le festival de sa région. Et bientôt, ce que peut lui offrir son professeur de musique locale en matière d'enseignement musical est insuffisant. Elle part pour Cardiff, où elle va travailler le piano et la composition avec David Evans, qui compose pour sa part surtout de la musique religieuse, des hymnes et des pièces pour orgue. Déjà à cette période, la jeune fille compose beaucoup, et notamment des pièces pour chœur. Nous allons en entendre un petit extrait, mais c'est un enregistrement amateur, gare aux oreilles.
Thank you.
À 18 ans, Morvedd Owen obtient une bourse pour l'université de Cardiff, où elle épate son public, notamment en jouant le concerto pour piano de Grieg. Elle se tourne de plus en plus vers la composition, et lors des concerts d'étudiants au printemps, une vingtaine de ses œuvres sont jouées par ses camarades, qu'elle accompagne dans des pièces pour ensemble ou dans des mélodies. Sound of flute, now it's mute, birds delight, day and night, nightingale in vaudeville. Look in sky, merrily, 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 we welcome in the year. Little boy, full of joy, little girl, sweet and small, cocktails gross, so do you. Merry voice, infant noise, merrily, merrily, we welcome. Little lamb, here I am, come and lick my white neck, let me pull your soft wool. Let me kiss your soft face, merrily, merrily we welcome in the year. Merrily, merrily we welcome in the year. Même si elle compose dans tous les genres de musique, c'est surtout grâce à ses mélodies que Morvedd Owen conquiert le public. De ses années à l'université de Cardiff date par exemple l'une des plus connues, To Our Lady of Sorrows, à Notre-Dame des Douleurs, composée juste avant d'obtenir son diplôme en avril 1912. C'est grâce à un certain Lord Crochet Williams que Morvedd Owen est convaincu d'aller poursuivre ses études à Londres. Ce Lord la décrit alors comme une jolie jeune galloise d'un idéalisme extraordinaire avec une naïveté charmante et captivante. Il poursuit « L'un de ses traits de caractère était une extrême modestie assortie d'une timidité qu'elle pouvait cacher grâce à sa vivacité naturelle. » En regard de son talent et de ses productions, son manque de confiance en soi était tout à fait absurde. Elle entre donc en 1912, à 21 ans, à la Royal Academy of Music et elle va étudier avec Frédéric Corder, un professeur qui a enseigné la composition et l'orchestration à toute une génération de musiciens. Il veille à offrir aux jeunes filles autant de chances qu'à leurs collègues masculins. Il écrit dans ses notes que Morvedd Owen était plutôt petite, très brune, et qu'elle ressemblait bien plus à une Espagnole qu'à une Galloise, avec une énergie irrésistible, alliée à une grande beauté et beaucoup de charme. Elle avait un niveau de culture générale très élevé, des connaissances vastes et précises, et, toujours selon son professeur, des qualités musicales inhabituelles chez une femme. À la Royal Academy of Music, Maeve Owen remporte toutes les récompenses possibles, prix et médailles. Elle est même la première femme à obtenir la bourse Goring Thomas, l'un des plus hauts honneurs accessibles dans la maison. En même temps, elle commence également une carrière comme chanteuse. Elle tient la partie de mezzo-soprano dans le Requiem de Verdi, ce qui lui procure par ricochet de nombreux engagements de récital tout autour du Royaume-Uni. Elle chante Gounod, Mozart et Gluck à côté de ses propres mélodies. Son premier concert au Aeolian Hall de Londres lui vaut d'excellentes critiques. En même temps que la carrière de Maeve Owen se développe à Londres et dans le pays, comme chanteuse et comme compositrice, elle fréquente deux sortes de milieux assez différents. D'une part, elle garde des attaches très solides avec sa religion. Elle joue et elle chante souvent à la chapelle galloise de Charing Cross. C'est là qu'elle va rencontrer Ruth Lewis, épouse d'un membre du Parlement, qui va beaucoup la soutenir dans sa carrière et aussi l'entraîner dans un travail de collecte de chansons populaires galloises. C'est pour la jeune compositrice une plongée fascinante dans ses racines musicales. À côté de ses attaches à la chapelle presbytérienne et de ses recherches ethnomusicologiques sur les chansons galloises, Maeve Owen fréquente aussi Hampstead, le quartier bohème de Londres, où elle rencontre beaucoup d'artistes, D.H. Lawrence ou Ezra Pound, beaucoup de Russes émigrés aussi, par qui elle acquiert une nouvelle connaissance de la musique russe. Elle obtient une bourse pour aller étudier sur le continent, mais la guerre va l'en empêcher. On dit que de nombreux hommes la demandent en mariage. Mais c'est finalement Ernest Jones qui l'emportera. C'est un psychanalyste, né lui aussi au Pays de Galles, disciple et biographe de Freud, de 13 ans l'aîné de sa jeune épouse. Beaucoup de questions restent posées à la suite de ce mariage. Jones est un athée notoire, alors que Owen est très attaché à sa foi. Lui écrit dans son autobiographie qu'il cherchait une maîtresse de maison. Elle est à l'aube de sa carrière et elle a besoin de s'épanouir professionnellement. Dans une lettre à son ami Crochet Williams, en 1918, l'année qui suit son mariage, elle écrit « Oh, ce que c'est que d'être mariée et d'avoir à faire marcher une maison. J'aimerais tellement vivre à l'hôtel et en avoir fini avec ça. »
From its
En été 1918, Morvedd Owen, en voyage chez ses parents au Pays de Galles, 18 mois après son mariage, est prise de fièvre et souffre d'une appendicite. Elle est opérée et c'est probablement l'anesthésiant utilisé qui va la tuer. Elle laisse de nombreuses œuvres inachevées et encore plus de pièces inédites. Quelques-unes seront publiées en 1924 par son mari, puis l'ensemble sera oublié jusqu'à la commémoration en 2018 du centenaire de sa mort tragique. Néanmoins, pendant tout ce temps, elle est restée l'icône perdue du Pays de Galles. La dernière des quatre impressions galloises de Morvedd Owen, jouée au piano par Zoé Smith. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Vous pouvez aussi aller consulter la page Musicopolis l'intégrale pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Claude Niort pour le mixage, Clément Diaz pour les recherches et le site et Max James pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.